émission spéciale sur Radio Primitive en partenariat avec la ville de Reims. Une émission dédiée aujourd'hui à un anniversaire où vous êtes bien sûr tous conviés, les 100 ans de l'art déco. La ville vous invite à voter parmi 3 œuvres d'art des collections du musée des Beaux-Arts. Des œuvres qui seront réinterprétées et reproduites sur un mur rue de l'université. Pour nous en parler dans un instant, l'artiste choisi par la ville de Reims, Nadège d'Auvergne, est celle à l'initiative de ce projet. Donc on est aux côtés de Marion Grand sur Radio Primitive, alors responsable du développement culturel de la ville de Reims, qui nous parle du double anniversaire en 2025 de la ville de Reims, le centenaire de l'art déco et celui de la reconstruction rémoise au travers de cet événement qui s'appelle donc les Folies Modernes. Alors déjà bonjour Marion.
Bonjour.
Alors, il y a pas mal de choses qui sont organisées autour de cet événement. On va déjà donc commencer par cette frise, alors, qui va représenter donc l'art déco. Est-ce que vous pouvez déjà nous en parler un petit peu rapidement ? On rentrera du coup dans les détails point par point par la suite.
Oui, alors c'est précisément une fresque. Ouais, voilà. La frise, ça a un format un peu plus allongé. Là, on est sur une fresque, autrement dit une peinture, effectivement de la peinture en tout cas, qui est appliquée sur un grand mur, un pignon. Et donc oui, ça sera là on vient parler de la première réalisation qui aura lieu en mars. Et puis elle sera suivie de plusieurs réalisations en ville sur la thématique de l'art déco, mais mobiliser les Rémois. Dès le mois de janvier, puisqu'on va les inviter en fait à choisir la thématique ou en tout cas l'œuvre qui va inspirer l'artiste Nadège d'Auvergne qui va intervenir sur ce mur.
Alors du coup, pourquoi avoir choisi de représenter l'art déco à travers le street art ? Parce que finalement, c'est ça. Donc c'est à l'extérieur, c'est un magnifique mur qui se situe rue de l'université, si je ne dis pas de bêtises.
Oui, c'est ça. Et on a trouvé d'autres murs qui sont encore confidentiels pour le moment, okay, ou encore en cours de négociation. Parce que quand on travaille avec des murs privés, il faut avoir l'autorisation, évidemment, des propriétaires. Mais en fait, effectivement, il y a plusieurs façons de célébrer l'art déco et la reconstruction rémoise. Qui sont un peu... Alors, c'est un peu la même chose. Hein. La reconstruction, c'est se dire qu'effectivement, Reims est détruite à 80% à l'issue de la Première Guerre mondiale et que du coup, le style art déco émerge juste après la Première Guerre mondiale et que c'est dans ce style, principalement, que toute la ville va être reconstruite, du moins son centre-ville à ce moment-là. Donc, une immense effervescence au niveau de l'architecture et de l'urbanisme. Et donc, ça nous paraissait très intéressant 100 ans après, de réinterroger cet urbanisme et de voir quelle était la place de l'art aujourd'hui sur les façades, dans l'architecture, et comment faire un parallèle entre ce patrimoine art déco qui existe toujours aujourd'hui et qui est protégé, et puis ce que peuvent faire les créateurs d'aujourd'hui s'en emparer pour réinventer aussi la ville et l'urbanisme, parce que ce sont deux mouvements finalement qui sont très liés.
Donc c'est lié finalement, en fait, on pourrait dire que le street art, c'est l'enfant de l'art déco, quoi, quelque part, en un sens.
Mais oui, on peut dire ça. Logique. C'est la suite logique, effectivement.
Voilà. Donc, voilà, c'est juste tout simplement plus moderne et toujours dans cette optique de modernité. Donc vous avez laissé le choix aux habitants de pouvoir, grâce à une application, à un QR code, voter et choisir l'œuvre qu'ils préfèrent, c'est ça ?
Voilà, c'est ça. Pour ne pas être complètement déconnecté aussi de cette période-là, mais vous avez raison de le souligner, en 1925, enfin quand la ville commence à être reconstruite, donc au lendemain de la guerre, et ça va durer pendant plus de 10 ans, il y a près de 300 architectes qui vont œuvrer à Reims quotidiennement pour rebâtir la ville. Et donc ça donne lieu à beaucoup de richesses, de l'éclectisme aussi. Enfin, on voit beaucoup de choses différentes et les architectes, ils se font plaisir en fait. Mmh. Ils font des réalisations un peu inédites, un peu originales, où ils mettent de la mosaïque. En fait, voilà, l'esprit est totalement libre. Et c'est à ça qu'on voulait faire écho aujourd'hui avec effectivement les artistes contemporains. Et puis pour faire le lien vraiment avec l'art déco et avec le musée des Beaux-Arts aussi, qui vous le savez est en restructuration, donc on aura un nouveau musée bientôt, mais pour la célébration en tout cas de l'art déco, il est encore fermé. On a demandé à Nadège d'Auvergne de choisir parmi les collections du musée des Beaux-Arts, donc parmi les œuvres qui y sont conservées, en réserve aujourd'hui, qui sont protégées, 3 œuvres. Elle a retenu 3 œuvres voilà, de cette période. Et puis, effectivement, on les soumet au vote du public, ces 3 œuvres. Et le public va retenir une œuvre au terme du vote. On a un mois, vous avez un mois pour voter. Et c'est cette œuvre qui va inspirer l'artiste. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle va reproduire cette œuvre.
Très pour
surtout
très, oui.
Surtout pas, voilà, c'est pas ça, c'est pas de la copie, c'est plutôt s'en inspirer, peut-être d'un détail, pas l'entièreté de l'œuvre, et dans sa technique un peu particulière dont elle vous parlera, réinterpréter cette œuvre.
Alors, vous avez parlé brièvement justement du futur musée des Beaux-Arts. Est-ce que les travaux avancent bien, si vous pouvez en parler?
Alors, on peut en parler. Ben, je crois que de toute façon, c'est un chantier à ciel ouvert et on peut difficilement cacher qu'il est loin d'être terminé puisqu'il est en plein centre-ville et qu'on voit bien aujourd'hui qu'on est encore en partie sur une phase de fouille puisque voilà, c'est un bâtiment, en tout cas le sol de ces bâtiments, y compris du jardin qui le jouxtait, hein, du square qui avait juste à côté et qui fera partie du nouveau musée, n'avait jamais été fouillé. Donc aujourd'hui, on est en période de fouille. Ça va se terminer, la première séquence là en mars, et puis il y aura encore une autre petite partie de fouille. Donc tant qu'on n'a pas fouillé, on n'a pas les fondations. Alors pour le moment, on trouve évidemment pas mal de choses, hein, notamment en ce moment là, ils sont sur la période romaine et ils ont dégagé pas mal de choses. Donc on voit qu'il y avait des thermes à cet endroit-là. Enfin, on sait de toute façon que la ville de Reims était romaine. Et puis ensuite viendra effectivement la phase de construction pure. Alors là, ça peut aller un peu plus vite, mais je pense qu'on est plutôt effectivement sur une échéance 2026, tout début 26, plutôt que 25, voilà.
Après, du coup, c'est intéressant, cette initiative de fêter cet anniversaire, quoi qu'il arrive, malgré les travaux du musée, parce qu'au moins, là, ça se vit vraiment à l'extérieur de la ville, un petit peu partout dans la ville. Donc, c'est vrai que c'est plutôt intéressant. Vous avez parlé rapidement des œuvres. Est-ce que vous pouvez déjà nous évoquer le nom, peut-être, de ces œuvres, ceux qui les ont réalisées, les trois qu'il va falloir départager?
Oui, alors tout à fait. La première œuvre, c'est celle de l'artiste Jean Goulden, qui est assez présente dans les collections du musée des Beaux-Arts. Il s'agit d'un paysage qui, en fait, de la campagne du Tardenois. Donc, on est vraiment... c'est local, si je puis dire. Et Jean Goulden a réalisé beaucoup d'œuvres. Et puis, il a eu son atelier à Reims, me semble-t-il, mais je ne voudrais pas raconter de bêtises, mais je crois qu'il a eu son atelier derrière la cathédrale. Donc, c'est vraiment un artiste du cru et qui travaillait ses inspirations. C'est plutôt le Japon et les estampes japonaises. Donc, vous verrez que le paysage tel qu'on le voit, c'est pas tout à fait réaliste, quoi. Ça fait vraiment appel à ces influences japonaises, avec tout sur le même plan, quelques couleurs. Donc, quelque chose qui est de l'ordre du paysage, mais qui fait presque abstrait. Donc ça, c'est la première œuvre. Ensuite, on a celle de Clément Maire, qui est un artiste qui était plutôt un peintre décorateur. Donc lui, il a fait des décorations. Et en l'occurrence, l'œuvre qui a été retenue, c'est un panneau, c'est une peinture sur panneau. Et ce panneau faisait partie d'une décoration, donc en bois, à l'intérieur d'une salle à manger. Okay. De la salle à manger de... Alors j'ai oublié le nom du comte et de la comtesse, mais je crois que c'est Fels. Et qui recevait dans leur salon à l'époque... Ça va de Eisenhower à, il me semble qu'il devait y avoir Churchill aussi. Enfin voilà, un
du
endroit
monde.
Où on recevait du monde. Et voilà. Et donc le décor de Clément Maire, c'est un détail, en tout cas un panneau de Clément Maire que l'artiste a retenu. Donc quelque chose de très décoratif, très visuel. On est plutôt sur des animaux. Voilà. C'est plutôt un paon, un vol de cigogne. Donc un décor plutôt animalier, donc très différent du premier. Mm-hmm. Et puis le dernier, c'est Henri Rapin, qui est conservé aussi au Musée des Beaux-Arts. Et là, c'est une grande toile qui représente l'enseignement. Alors, l'enseignement sous-entendu des Beaux-Arts, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit dans cette grande toile qu'on voit à gauche un groupe d'hommes, probablement des architectes, en arrière-plan, dans un bois... Des jeunes personnes qui sont en train de sculpter d'après un modèle. Voilà, donc on voit que c'est l'enseignement des Beaux-Arts. Et là, évidemment, ce n'est pas l'intégralité de l'œuvre qui sera reprise. C'est probablement sur cette œuvre que c'est le plus visible. Il y a un détail qui nécessairement va interpeller l'artiste et c'est celui-ci qu'elle choisira de traiter. Voilà, donc trois œuvres très différentes quant à leur graphisme, même si elles sont toutes de la même période.
Voilà. Alors, justement, comment vous avez réussi à faire pour choisir? Parce que c'est quand même une période qui, c'est une bonne dizaine d'années à peu près, l'art déco, si je ne dis pas de bêtises.
Oui, c'est ça.
Il y a eu, j'imagine, beaucoup d'œuvres. Comment en choisir seulement trois?
Alors, c'est pour ça qu'on a demandé à l'artiste de les sélectionner en réalité. Et c'est tout l'intérêt de faire appel à un artiste, parce que si vous faites appel à des collectionneurs, si vous faites appel à des conservateurs, en fait, on a tous un avis qui peut être scientifique, technique, et qui va être nécessairement orienté. Donc, si on fait le choix de confier à un artiste la reprise, la réinterprétation d'une œuvre, je crois qu'il faut aller suffisamment, dans le sens de cette démarche, justement, et de lui laisser le choix de ce qui, elle, l'inspire, et puis ensuite de le soumettre aux habitants. C'est assez inédit, hein, parce que généralement, l'artiste, Nadège d'Auvergne, en l'occurrence, elle a vraiment cette habitude de travailler sur des œuvres anciennes. Du 19e siècle jusqu'au milieu du 20e siècle. Et souvent, elle se balade dans un musée, elle erre au milieu des collections. Et puis, il y a un détail qui l'interpelle. Et c'est ce détail qu'elle choisit de reprendre. Mais c'est rare, en fait, qu'on lui dise « Ah bah, une fois que vous aurez fait votre choix, il y a encore des habitants qui vont choisir derrière. » Donc là, finalement, il y a une double participation. Mais nous, en tant qu'opérateur ville, on a juste mis les collections à disposition de l'artiste, en lui disant « Voilà, il y a un catalogue numérique aujourd'hui, puisque le Musée des Beaux-Arts a numérisé la plupart de ses œuvres, qui sont accessibles à tout à chacun. Et c'est elle, voilà, qui a fait ce choix en fonction de ce qui pouvait l'inspirer, d'une part. Et puis aussi, on voit bien qu'elle a choisi trois œuvres très différentes. Qui laisse la surprise quand même totale, à mon avis, pour le mois de mars.
Donc du coup, elle a déjà choisi ce détail finalement qui l'a frappé. Elle l'a gardé secret ou elle vous l'a partagé?
Pour partie, sans tout dévoiler sur une œuvre, j'ai l'idée, ou en tout cas, je sais qu'il y a un détail qui l'a interpellée. Mais pour travailler avec d'autres artistes sur ce parcours, parce qu'ils seront plus de 5 en tout à intervenir, j'en ai vu un cet après-midi. Okay. Et il m'avait présenté une esquisse il y a un mois, et il a totalement changé d'avis et il a proposé autre chose. Donc en fait, c'est ça aussi la liberté artistique. Je crois que c'est sans donner carte blanche, en tout cas, quand on passe cette commande à un artiste, on passe commande aussi de manière entre guillemets aveugle, en tout cas à son univers, voilà.
D'accord. Et justement, on parle beaucoup de Nadège d'Auvergne. Comment s'est fait le contact, la rencontre, le choix de cet artiste?
Alors, le choix des artistes qui participent à ce parcours, c'est naturellement des artistes dont on a repéré qu'ils avaient l'habitude de travailler avec une iconographie un peu ancienne, ou dont on pressent qu'ils ont des codes et que c'est leur univers de travail. Sur une thématique comme l'art déco, on ne va pas chercher des artistes de pop art qui auraient une grammaire très abstraite et très colorée. Donc là, ça ne veut pas dire que ça ne sera pas coloré, mais en fait, on est quand même dans cette thématique et c'est ce qui a drivé la direction artistique. On a depuis quelques années maintenant à Reims une association qui s'appelle Le Mur, donc Le Mur de Reims. Il y a plusieurs associations Le Mur en France. La première, c'était Le Mur Oberkampf à Paris, très connu, et puis du coup, qui a fait des petits, entre guillemets, dans plusieurs villes. Le principe du Mur, qui est une association, il y a une association à Reims et qui est dirigée par deux artistes qui s'appellent Matt et Zeki, deux artistes rémoises. Elles ont ce mur qui est rue Gerbert. Et tous les 3 mois, il y a un artiste qui intervient à leur invitation sur ce mur. Et donc, tous les 3 mois, le mur est recouvert par l'œuvre qui vient le recouvrir. Et bon, je crois qu'on est déjà à plus d'une quinzaine d'œuvres.
D'accord. Voilà.
Et Nadège d'Auvergne est intervenue sur le mur de Reims il y a quelques années, il y a peut-être un an et demi. Et j'avais repéré ce travail très particulier, où elle avait repris comme ça aussi un motif de paysage. Donc ça m'avait interpellée à ce moment-là. Et puis il y a encore quelques mois, il y a un duo d'artistes espagnols qui est intervenu aussi sur le mur. C'est comme une vitrine en fait. Et qui est un duo d'artistes espagnols qui s'appelle Rescate. Et que j'ai souhaité aussi faire revenir dans le cadre du centenaire de l'art déco, parce qu'ils ont aussi cette grammaire artistique très, très intéressante, ou en tout cas, ils sont en mesure de reprendre des codes un peu anciens et de les réinterpréter. Et donc, en lien avec le mur, ils viendront eux aussi proposer un mur au mois d'avril.
D'accord. Alors là, on parle donc de Nadège d'Auvergne, et vous avez dit, il y a 5 artistes, c'est ça, en tout. On peut les citer, déjà ?
On peut les citer. Donc Nadège d'Auvergne, une artiste ensuite qui s'appelle Madame. Donc, Madame, c'est son pseudonyme. Et Madame est spécialisée dans le collage. Donc elle produit d'immenses collages. C'est comme des anciennes affiches en fait, hein, publicitaires qu'on pouvait avoir sur des grands pignons de mur il y a plusieurs décennies. Et donc voilà, son travail, c'est de s'inspirer de l'iconographie ancienne. Donc là encore, on lui a fourni tout ce qu'on peut avoir comme matière première, par exemple à Carnegie. Puisque Carnegie est un bâtiment qui a été construit, c'est un peu le symbole de l'art déco à Reims, la bibliothèque Carnegie. A été construit grâce à des fonds américains à la fin de la guerre. Et donc Carnegie conserve, c'est une bibliothèque avec des documents anciens, et elle conserve tous les catalogues ou même des vogues anciens de cette période. Donc en fait, ils nous ont fourni plusieurs clichés, photos, documents, archives, qui permettent aussi aux artistes de s'inspirer de ce qui s'est passé à Reims au niveau art déco. Donc Madame s'en inspire, et puis elle fait le lien avec une phrase. Il y a toujours une phrase sur ces immenses collages, en fait, d'un jeu de mots, d'une citation, qui sont de son invention, mais qui nous font réfléchir. Donc voilà, elle va interroger comme ça cette reconstruction. Elle est partie plutôt sur l'idée de Reims comme une ville phénix, c'est-à-dire qui renaît toujours de ses cendres. Donc elle proposera plusieurs collages dans la ville. On a un artiste qui s'appelle Le Valet, qui lui est rémois. Et qui travaille aussi des collages ou des installations, souvent des hommes, des personnages à dimension humaine, donc à l'échelle 1, qui s'incrustent dans la ville, qui se cachent un peu dans la ville et qui interpellent justement sur le jeu de l'homme dans l'architecture. Donc ça nous paraissait intéressant de faire travailler cet artiste qui est rémois par ailleurs, qui a son atelier à Reims, mais qui travaille beaucoup au national et à l'international. Et puis on a un artiste qui s'appelle MMM, qui lui est mosaïste, mais alors il a une grande particularité, c'est qu'il travaille le sol et les murs, mais principalement les sols. Il appelle ça, il fait de la réparation poétique des trottoirs, des pansements de rue, c'est-à-dire qu'à l'endroit où parfois sur un trottoir il y a un trou, vous savez, il y a une espèce de béance où on voit qu'un morceau de bitume ou un pavé est parti, bien lui en fait il vient faire un moulage de ce trou, et avec des pièces de mosaïque ou de pierre qu'il a collectées, on va organiser une petite collecte aussi à l'échelle de Reims, je viendrai peut-être vous en reparler.
Avec plaisir.
Il récupère en fait des vieux carrelages, et puis à partir de ça il recrée une œuvre en mosaïque et il vient comme ça, comme un pansement, la poser dans la rue. Et donc là, c'est pareil, ça fait appel aussi à toute la mosaïque qui a été développée, enfin en tout cas sur la période Art déco à Reims, on a beaucoup de monuments en mosaïque, notamment à Carnegie. Et puis ce collectif, effectivement, Rescaté, qui interviendra, lui, sa spécificité, c'est de proposer un dessin pour le jour et un dessin pour la nuit.
D'accord.
Puisqu'il travaille la peinture phosphorescente. Et que donc, avec un éclairage particulier, on a un motif différent.
Un double regard.
Un double regard, un motif différent qui apparaît à la tombée de la nuit.
C'est très intéressant, oui. Chaque artiste a sa petite forme, sa petite manière de voir le monde. Et c'est justement ça que vous avez envie de représenter. Tout se passe en avril, à peu près ?
À peu près.
D'accord. Donc là, on parle essentiellement de Nadège d'Auvergne parce qu'il faut voter.
Absolument.
Mais pour les autres artistes, il n'y a pas besoin de vote ou ça va se renouveler, non ?
Non, il n'y a pas besoin. Il n'y aura pas de vote, effectivement, avec les autres artistes. Ils ont plutôt on leur fournit une matière, entre guillemets, les ressources dont je vous ai parlé. Ils ont reçu, entre guillemets, le même pitch que celui que je viens de vous faire, c'est-à-dire pour essayer de comprendre aussi à quel endroit est leur intervention. Et puis, ils nous font une proposition et on leur fait confiance. Voilà.
Mais ça doit prendre énormément de temps à organiser tout ça, entre, j'imagine, le planning assez chargé des artistes, entre la sélection des lieux dans Reims. Comment ça se passe ? Ça fait combien de temps que vous travaillez sur ce projet ?
Alors, il a mûri l'été dernier. Du moins, c'est l'été dernier que on a affiné un peu notre regard sur les artistes qu'on pourrait solliciter. Ensuite, vous avez raison, il faut que ces artistes soient libres sur le calendrier. Il faut trouver les emplacements. Et ça, c'est pas évident. Il faut aussi qu'on y intègre la vie de l'architecte des bâtiments de France, parce qu'on intervient sur des façades en centre-ville. Et ça, l'art urbain en centre-ville, à Reims, pour le moment, ça ne s'est pas fait. On sait qu'il y a de très belles réalisations dans les quartiers, du côté de Valbaume, du côté d'Europe, du côté des Châtillons, où on a vraiment d'immenses pignons avec des artistes internationaux qui interviennent. Mais en centre-ville, on ne l'avait pas encore fait. Et donc, c'est un secteur qui est protégé et donc, voilà, qui est soumis à avis. Donc, il faut faire attention à ça aussi. Et puis ensuite, il y a toutes les questions techniques parce que, effectivement, ce sont des artistes qui vont s'attaquer à des pignons qui sont parfois un peu hauts. Donc, il faut une nacelle, il faut sécuriser l'espace, il faut... Ça s'anticipe un peu, effectivement.
Alors du coup, pour revenir au vote, comment on peut voter ? Donc, j'ai brièvement évoqué un petit peu plus tôt le QR code. Donc je ne sais pas s'il y a une petite technique, une manipulation à faire.
Oui, alors c'est assez simple. On implante à partir de la semaine prochaine et pour un mois un cube un peu publicitaire sur la place du Forum à Reims, donc en plein centre, mm-hmm. avec voilà, sur ce cube qui est assez important, toutes les explications sur les œuvres. D'abord, elles sont reproduites visuellement. Le texte, il y a aussi un texte qui explique effectivement leur provenance, leur histoire. Et puis, il y a effectivement un QR code qu'il suffit de flasher, voilà, où on arrive directement sur le site de la ville de Reims. Et c'est très simple, vous cochez 1, 2 ou 3, vous mettez votre mail et puis le vote est fait. On avait fait la même chose l'année dernière pour une œuvre qui avait été... réalisé sur le terrain de basket du Stade Saint-Symphorien pour les JO. Donc il y a une immense œuvre qui avait été réalisée et qui est toujours là, hein, sur le terrain de basket. Ça avait très bien fonctionné, donc ça nous a paru intéressant de remobiliser les Rémois pour qu'ils puissent choisir l'œuvre un peu totem qui serait l'œuvre art déco qu'ils ont envie de voir reproduite sur un mur.
Alors du coup, tout le monde peut voter ?
Tout le monde peut voter.
Donc, vous avez dit les Rémois, mais admettons,
alors, les touristes
également.
Absolument. Okay. Parce qu'effectivement, on peut se dire c'est les Rémois que ça intéresse principalement, mais en réalité, il ne faut pas rentrer son code postal ou montrer qu'on est Rémois pour voter. Donc, bien sûr, tout le monde est invité à voter.
Et une fois que l'œuvre est choisie, elle sera donc réalisée en avril, c'est ça, si je ne dis pas...
Alors, celle-ci, ça sera toute fin mars.
Alors, fin mars, d'accord. Ça prend combien de temps à réaliser une œuvre comme ça ?
En fait, les artistes, ils travaillent très, très vite. Les street artistes, c'est assez impressionnant de les voir, en tout cas, si vous passez à plusieurs heures du jour, de voir l'avancée sur ce pignon-là qui fait pas loin de 50 mètres carrés.
Quand même. C'est énorme.
Hein, c'est haut et c'est large. On est parti sur 5 à 6 jours de réalisation. Voilà. On prévoit un peu large parce que les street artistes interviennent rarement avant mars-avril pour des raisons de climat, évidemment.
Ce que j'allais dire, oui, ouais. Si jamais il pleut, ça retarde, en fait.
Alors, évidemment, si on a la même météo que l'année dernière, il va falloir différer. Enfin, en fait, quand on travaille dans la production d'art urbain, on le sait, les artistes aussi, on est effectivement les aléas du climat, mais les street artistes, ils travaillent sous la pluie en réalité. Alors après, il ne faut pas que ça soit une pluie battante, et surtout du vent, parce que quand on travaille sur une nacelle, c'est comme n'importe quel travail en hauteur, il faut être en sécurité, donc s'il y a du vent, ce n'est pas possible d'intervenir, mais sous la pluie, si ce sont quelques averses, c'est envisageable. Voilà.
Et donc, justement, vous avez dit, on peut... voir la réalisation, en fait, au fur et à mesure, on passe et on voit l'avancée. Donc ça, c'est génial, c'est ouvert au public.
Absolument, puisqu'on est sur la voie publique, on sera rue de l'université, donc en fait, précisément juste en face du collège, université. Donc tous les collégiens qui vont rentrer en cours le matin, qui sortiront le soir, verront l'état d'avancement. La rue, en fait, sur l'endroit du trottoir, elle va juste être bloquée à l'endroit du trottoir, évidemment, parce qu'il y aura l'emprise de la nacelle. Mais ça, on ne va pas cacher le mur derrière derrière un grand voile. Donc ça sera effectivement à la visibilité de tous.
Et alors, je pense que ça ne doit pas forcément être simple de le savoir, mais pendant combien de temps elle va rester visible, cette œuvre, en fait ? C'est le temps qui va faire qu'elle va passer ou...
Exactement, c'est comme un crépi sur un mur, en fait. Alors, parfois, il est altéré parce que, en termes d'exposition, et que la pluie souvent tombe dessus, ou qu'il est très exposé au soleil, et le soleil aussi a naturellement une incidence, en fait, sur la tenue de la fresque. Mais on peut facilement partir sur 5 ans, voire 10 ans. Au-delà... C'est comme n'importe quel pignon, ça s'abîme, ça s'érode, il y a peut-être des champignons, ça se ternit. Mais en réalité, on est plutôt sur entre 5 et 10 ans.
Mais c'est aussi la beauté du street art, finalement, c'est que ça reste éphémère quelque part et il faut être là le moment venu. Quoi.
Exactement, c'est exactement ça. Ça reste, quoi qu'il en soit, éphémère. Et encore plus sur les collages qui seront visibles cette année, mais certains très exposés seront plus visibles dès l'année prochaine. Donc il faudra venir visiter, faire ce parcours en ville dès le mois d'avril.
Dès le mois d'avril, et donc pour voter, c'est jusqu'au 20 février.
Pour voter, c'est jusqu'au 20 février.
Donc avec le QR code, c'est gratuit, c'est facile, il y a juste deux petites cases à cocher et un mail à rentrer. Est-ce qu'il y a d'autres initiatives prévues pour 2025 Donc là, déjà, on a parlé de beaucoup de choses, mais peut-être qu'il y a d'autres...
Oui, il y a plusieurs façons de célébrer l'art déco et cet anniversaire. Et donc, beaucoup d'établissements culturels de la ville ont des propositions. Le premier anniversaire, c'est celui de la Maison commune du Chemin Vert. Maison commune du Chemin Vert qui est donc, comme son nom l'indique, située dans le quartier du Chemin Vert. C'est une cité-jardin. Et les cités-jardins, c'est vraiment un héritage art déco reconstruction. Voilà, ces cités, elles ont vraiment vu le jour à Reims, il y en a plusieurs, pendant l'entre-deux-guerres. Et donc, la maison va fêter ses 100 ans le 28 février. Et donc, le 28 février, à partir de 19h et sur tout le week-end, c'est un vendredi, il y aura plein de festivités. Voilà, sur la thématique un peu année folle, cinéma, enfin tout ce qui faisait vivre cette maison commune pour les habitants, en tout cas, de cette cité-jardin. Et puis, donc ensuite, il y a le parcours street art. Il y aura aussi un colloque, beaucoup plus scientifique, entre guillemets, sur l'art déco et la reconstruction à Reims. Une exposition aussi à Carnegie. Il y a les étudiants de l'ESSA aussi, qui vont travailler, toujours pareil, à partir de cette grammaire à redessiner. Et puis on pourra aussi, je crois, choisir parmi 18 élèves qui vont travailler. Et puis il y a un des dessins qui sera retenu et qui sera exposé aussi à Carnegie. Il y a, je crois, les flâneries musicales qui aussi vont profiter de cette célébration pour avoir un concert un peu année folle dans des lieux art déco. Le jazz au Boulingrin cette année aussi aura probablement une petite thématique année folle. Voilà, plusieurs manifestations tout au long de l'année.
Donc un programme bien chargé encore qui nous attend dans la ville de Reims. Quoi.
Qui sera dévoilé en février.
Voilà, ok, donc
tout bientôt.
Ce sera l'occasion peut-être de revenir en février donc pour nous reparler encore de tout ça. Merci à vous.
Merci.
Et puis à très vite.
À bientôt.
Radio Primitive.
Toujours à l'écoute de Radio Primitive, émission spéciale en partenariat avec la ville de Reims, à l'occasion du centenaire de l'art déco, après Marion Grange, responsable du développement culturel de la ville de Reims, à l'initiative de cet événement Les Folies Modernes. On a eu également le plaisir de poser quelques questions à l'artiste qui a pour mission de sublimer cet anniversaire et notre ville. Alors sur Radio Primitive, on est aux côtés de Nadège d'Auvergne, artiste choisie par la ville de Reims pour la réalisation de la fresque rue de l'Université à l'occasion du centenaire de l'art déco et de celui de la reconstruction rémoise. Alors bonjour Nadège.
Bonjour.
Alors déjà, petite présentation en tout cas, vous m'arrêtez si je me trompe. Vous êtes diplômée des Beaux-Arts de Reims, École supérieure d'art et de design de Reims. C'est bien ça ?
Tout à fait.
Et donc, est-ce que c'est indiscret si je vous demande en quelle année, par exemple, vous avez obtenu ce diplôme ?
Alors, effectivement, alors ça commence à remonter un petit peu, mais c'était dans les années 90, en fait. Donc, ça remonte à l'année 93, voilà. J'ai fait 3 ans donc aux Beaux-Arts et donc j'ai validé en 93.
Donc, finalement, vous avez une petite histoire avec la ville de Reims.
Oui, complètement. Ouais, complètement.
Et donc,
3 années de ma vie.
3 années de votre vie, les années étudiantes en plus, donc les années qui sont
Et
quand même
année
assez
étudiante.
importantes. Donc, vous avez, j'imagine, un bon souvenir, j'espère.
Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, c'était un petit peu compliqué. C'était l'art contemporain. Bon, donc le dessin, la peinture, à l'époque, c'était pas évident. Mais disons qu'avec l'art urbain qui est venu après, j'ai pu retrouver, on va dire, comment dirais-je, la possibilité de dessiner et de peindre. Et avec les fresques et tout ça, c'est revenu. Mais oui, non, bien sûr, je garde un bon souvenir de ces années.
Oui, parce que du coup, donc au cas où, hein, je crois hein, que vous n'êtes pas marnaise, pourquoi vous avez choisi donc de passer votre diplôme à Reims?
Eh bien, tout simplement parce que j'avais été reçue à l'école, puisqu'en fait, on rentrait en passant un diplôme. Et à ce moment-là, j'avais été donc reçue aux Beaux-Arts de Reims et mon compagnon également. Donc, c'était assez exceptionnel qu'on soit reçu dans le même établissement. Donc, voilà, c'est pour ça que, du coup, on a passé nos 3 années là-bas
Tout simplement. Bon,
ensemble.
là, du coup, on va
Ouais.
revenir quand même sur ce projet. Donc, comment vous avez réagi lorsqu'on vous a proposé de participer à ce projet? Est-ce que c'est la première fois quand on propose à un artiste d'être soumis finalement à un vote du public? Enfin, c'est un concept qui est assez
Oui.
original. Comment ça s'est passé?
Alors, c'est un concept qui est très souvent dans l'art urbain. C'est pas la
D'accord.
première fois. Alors, c'est pas non plus à chaque fois, mais en fait, ça va complètement dans l'ADN de l'esprit de l'art urbain. C'est-à-dire que on fait souvent des ateliers participatifs où on consulte les gens, etc. Donc voilà, c'est un petit peu dans l'ADN de l'art urbain. Donc évidemment, c'est intéressant. C'est un petit peu ce qu'on recherche, le lien avec le public, que les gens s'investissent, etc. Donc, au contraire, c'est très, très bien.
Et en plus, sous cette forme en plus assez moderne, finalement, du QR code, du vote en ligne,
Oui.
c'est d'ailleurs assez étonnant. On l'a évoqué un petit peu plus tôt avec Marion Grange. On pense tout de suite Art
Oui.
déco, quelque chose d'assez poussiéreux. Et puis finalement, à travers le street art, à travers
Voilà.
du coup ce vote, ça permet un petit peu de rajeunir tout ça, on va dire.
Oui, tout à fait. Et puis le cube est quand même particulièrement beau, je dois reconnaître.
D'accord. En plus, eh
Là,
ben, comment ça s'est passé justement? Quand vous dites le cube, c'est la partie où vous allez réaliser l'œuvre, c'est ça?
non, pas du tout. C'est le cube où vont être soumis, où les gens pourront justement, avec le QR code, choisir l'œuvre, etc. Je trouve que la communication, elle est vraiment très bien faite pour le coup.
D'accord.
Là, c'est. Ouais,
Oui, bah, s'il me
ce
semble, ça
sera
va
une
être un
structure.
panneau, c'est ça, dans le centre-ville,
Oui,
place du
ça va être une
Forum.
structure. C'est ça qui va être mis en place. Je crois qu'elle fait 2 par 2 et ça présente très très bien le projet. Ça présente à la fois ma technique et en même temps, donc sur les 4 faces, on présente ma technique et ensuite on va proposer les 3 œuvres. Donc sur chaque face sera proposée une des œuvres où les gens pourront voter. Voilà. Et donc il y a des explications de l'œuvre qui est au musée à chaque fois. Donc c'est très détaillé et vraiment c'est très bien fait.
Bah justement, du coup, vous parlez de votre technique. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu plus en détail aux auditeurs de Radio Primitive?
Oui. Alors, donc moi j'ai l'habitude de m'inspirer de l'art classique. Donc là, on sera plutôt dans les années 20-30, donc c'est un petit peu différent, mais je dirais que peu importe. Là, l'idée pour moi, c'est de brasser un petit peu les époques, donc puiser dans l'art, dans l'art classique, et ensuite je retravaille tout ça avec une technique qui est, je dirais, néo-impressionniste. C'est quelque chose que j'ai développé un petit peu à cause des outils que j'utilisais, et ensuite dans un contexte d'art urbain, voilà. Ce qui me plaît, c'est de brasser comme ça les époques, les techniques pour proposer quelque chose, finalement, un nouveau regard sur les œuvres d'art. L'idée aussi de se les réapproprier par des ateliers, par exemple. Les gens se réapproprient ces œuvres en les travaillant un petit peu autrement. Donc, c'est une technique qui s'apparente au mélange optique des néo-impressionnistes, une façon de diviser la palette où je vais poser des couleurs assez brutes, assez pures. Et de loin, une couleur va se former. En combinaison, si on peut dire. Voilà.
D'accord. Bah après, c'est vrai que c'est toujours un petit peu difficile d'expliquer une technique artistique qui est
Oui.
visuelle à la radio. Ça, c'est
Oui.
toujours un petit challenge. Alors, comment s'est fait le lien donc avec Marion Grange, avec cette idée? Est-ce que vous l'avez construite ensemble? Comment ça s'est passé?
Alors, il y a quelques années, j'ai fait le mur de Reims déjà. Donc, bon, le musée était fermé, mais j'avais choisi une œuvre, puisque le musée était en ligne, et donc j'avais choisi une œuvre d'Arthur Guéniaud. qui me plaisait beaucoup. Et du coup, à ce moment-là, le musée a découvert un peu mon travail. Et donc, je suis revenue faire des ateliers par la suite, en m'inspirant toujours enfin, avec le musée Nomade. Donc, en fait, ça fait déjà plusieurs fois que j'ai des projets, en fait, avec le musée. Et là, en fait, on repart de nouveau sur un nouveau projet ensemble. Du fait qu'il soit bon, fermé, là l'idée c'est vraiment d'aller chercher les œuvres dans le musée, pareil, de travailler dessus. Bon, là ça va être des choses beaucoup plus pérennes. Voilà, donc en fait c'est une histoire qui remonte un petit peu déjà à quelques années, ces collaborations.
Et donc vos œuvres, vu que c'est du street art, enfin
Oui.
c'est il y a du street art, j'ai entendu aussi mélange optique.
Voilà, mélange optique, oui.
Alors du coup, mélange optique, est-ce que vous pouvez décrire aussi ce qu'est le mélange optique?
Donc en fait, le mélange optique, c'est on dit que la couleur se fait optiquement plutôt que de se faire sur une palette pour faire un vert. On mélange du jaune et du bleu, donc on les mélange sur une palette, voilà. Et le mélange là va se faire optiquement, c'est-à-dire qu'on va poser le bleu et le jaune séparément, donc très pur. Et en fait, de près, on a accès aux détails de la palette, où on voit les couleurs séparées, bien séparées, mais par contre, en se reculant, un petit peu comme des pixels, en se reculant, en fait, la couleur va se combiner par la distance. Donc l'idée, si vous voulez, c'est que de loin, vous reconnaissez l'œuvre, elle est reconnaissable et elle vibre un petit peu du fait des touches. Et puis de près, en se rapprochant, on voit que c'est tout un tas de petites hachures. Moi, c'est des petits traits, je procède comme ça. Ce n'est pas des points, mais c'est des traits qui se superposent les uns sur les autres, un peu comme une sorte de maillage. Donc voilà, c'est ça le mélange optique. Le mélange ne se fait pas sur une palette, il va se faire dans l'œil. C'est une autre façon de créer des couleurs, en fait.
Et donc là, on réussit à combiner les trois, donc le street art, le mélange optique et l'art déco.
Alors là, oui, c'est un peu ça, puisque les œuvres sont de l'époque Art déco, que je vais travailler avec une touche donc néo-impressionniste, et ensuite donc un petit peu plus ancienne, et dans un contexte d'art urbain. Donc finalement, voilà, on est dans ce brassage que j'aime bien, proposer quelque chose, un nouveau regard sur une œuvre, en se la réappropriant de cette façon-là.
Et quand on parle du coup du mélange optique, c'est quelque chose que vous faites depuis toujours ou c'est quelque chose que, au fur et à mesure du temps, vous avez trouvé intéressant de travailler?
Oui, alors en fait, c'est venu par un manque d'outils, une sorte de contrainte que j'avais il y a quelques années, puisque en fait, j'ai développé cette technique. Bon, j'ai une culture artistique, donc je connaissais le principe du pointillisme, le fait de diviser la palette comme ça, je connaissais le principe. Mais par contre, donc j'utilisais des marqueurs que j'utilise toujours d'ailleurs, un type de marqueur, et je manquais de couleurs, tout simplement. Et j'ai vu qu'en croisant mes couleurs avec ce principe de petits traits, de hachures, j'obtenais à créer optiquement donc des mi-teintes, des teintes intermédiaires, puisque j'avais peu de couleurs en fin de compte. Donc c'est une contrainte qui m'a fait développer cette façon de faire, que j'ai pas inventée, disons que je me la suis appropriée à ma manière, puisque je le fais à travers des petits traits, pas des points ou des touches. Moi, c'est vraiment un système de strates, en fait, des hachures qui se superposent et où il faut... C'est pas simplement un travail de hachure et de contre-hachure. Il me faut un minimum de couleurs. Il m'en faut au moins trois ou quatre pour que le mélange optique apparaisse, en fait. Donc, c'est vraiment une façon très particulière de créer les couleurs. Et comme je vous dis, en fait, je l'ai développé par contrainte, où il a fallu que je trouve une solution.
D'accord.
Et depuis, c'est devenu ma façon de, je dirais, presque de dessiner plutôt que de peindre et de créer les couleurs, en fait.
Mais c'est intéressant parce que c'est là qu'on voit que souvent bah, l'art naît de différentes choses différentes. Donc là, pour le coup, la contrainte, quand on parle du
Ouais.
street art, c'est dans la rue. Et d'ailleurs, ça m'a fait
Oui.
un peu sourire quand je suis allée me balader sur votre site internet. J'ai vu une petite citation où il y a écrit « Son œuvre se déploie en atelier ou dans la rue, de manière autorisée ou non
Oui,
». Alors,
c'est ça.
c'est-à-dire le « ou non »
Bah, ou non, parce qu'en fait, au départ, l'art urbain, on commence toujours, je pense, sans autorisation. Donc moi, c'était pas cette technique de petits traits, parce que j'avais pas le temps. Ça demande quand même, voilà, une autre mise en œuvre. Enfin, c'est pas faisable dans la rue sans autorisation. Mais à l'époque, je détournais les œuvres classiques que j'avais préparées en amont dans mon atelier. Donc, je faisais des collages. Et donc, j'ai fait pendant pas mal d'années, j'ai fait des collages non autorisés dans la rue, donc à Paris, un peu partout. Et voilà. Et petit à petit, j'ai voulu mettre ce travail de mélange optique que j'avais déjà à l'époque. Je voulais le mettre dans la rue, je voulais l'expérimenter dans l'espace de la rue où vraiment là, on a des touches très, très grosses, en fait, tout est proportionnel. Donc, de près, vraiment, on ne voit rien, on ne voit que des couleurs, c'est très abstrait. Et donc, et on se recule à l'échelle d'une rue, c'est vraiment une expérience assez incroyable. Donc voilà. Et en fait, dès que j'ai le temps, là, je manque un petit peu de temps pour retourner dans la rue. Je dirais sans autorisation, mais l'envie, je l'ai toujours, elle est toujours là, quoi. Si j'ai du temps, j'y retournerai, je pense, très vite.
En tout cas, là, on est d'accord qu'en ce qui concerne la fresque à Reims, énorme fresque de 50 mètres carrés, tout est autorisé, c'est bon.
Oui, bah oui, parce que là, il y a nacelle, il y a tout ça, donc évidemment, oui, bien sûr.
Alors du coup, on parle des trois œuvres qui vont être donc laissées au choix du public, au vote des Rémois. Je crois que vous avez fait quand même déjà une présélection.
Voilà, c'est ça. Alors, c'est vrai que c'est pas trop l'époque où je vais habituellement. Moi, c'est plutôt le 19e. Je recherche des figures souvent féminines ou des paysages, des choses comme ça. Donc là, bah, j'ai quand même fait un choix dans les œuvres proposées, des œuvres où je pourrais m'y retrouver, sachant que je pourrais aussi également expérimenter des choses un petit peu nouvelles. Donc, il y a un paysage, il y a un animal et puis des personnages. Donc, les trois m'ont intéressée en tout cas. Donc, après, on verra le choix du public.
Est-ce que vous avez une petite préférence ou pas? Sans induire, du coup, les Rémois.
Franchement, les trois m'intéressent. Oui, vraiment. En fait, c'est important pour moi d'être motivée par le sujet. Donc j'ai vraiment fait en sorte que les trois sujets m'intéressent de trois manières différentes à aborder. Mais non, je dirais que pour l'instant, parmi ces trois-là, alors c'est pas l'œuvre entière forcément, c'est des détails d'ailleurs que je reprendrai, puisque je recompose en fonction du mur. Hein, souvent, les murs n'ont pas le format des tableaux. Et puis il faut que ce soit dynamique, il faut quand même que ce soit bien composé, etc. Donc des fois il y a des pentes de toit, des choses comme ça. Donc il faut recadrer souvent et donc ça sera des éléments. Je pense que c'est important de signaler que ça sera des éléments des tableaux, que ça ne sera pas les tableaux complets. Mais les thèmes, voilà, le thème et les thèmes sont quand même un peu différents.
Oui, les thèmes de chaque tableau sont déjà forcément définis. Et puis, en effet, les trois sont
Oui.
bien différents les uns des autres. Alors, en effet, Marion Grange nous a bien précisé que ça allait être un détail, finalement, qui allait vous permettre de pouvoir réinterpréter les tableaux de chacun de ces artistes. Par contre, elle nous a
Tout à
dit
fait.
qu'il y avait donc, voilà, elle n'avait pas forcément d'informations sur les détails qui vous ont fait tiquer, qui vous ont fait choisir
Ah.
justement ces œuvres-là. Est-ce que nous, on peut savoir? Est-ce qu'on peut avoir la petite exclusivité?
Oui. Alors, donc pour Jean Goulden, c'est un paysage. Alors lui, il n'est pas trop, il sera pas trop recadré, je dirais, parce que déjà son format collait bien avec le pignon. Donc Jean Goulden, c'est un paysage, ambiance un petit peu estampe japonaise. Alors là, ce qui m'intéresse, j'ai travaillé pas mal le paysage ces derniers temps. Et là, il est très géométrique, en fait, très, très simplifié. Et donc, ça m'intéresserait beaucoup de le travailler avec ma technique. Ensuite, Clément Maire, c'est plutôt un animal, et très art déco, etc. Alors là, il y a un côté un peu flamboyant, il y a un jeu avec les plumes, comme un éventail. Donc, pareil, là, c'est le fait de redimensionner aussi qui est très intéressant, parce que l'animal devient presque. Enfin, la grandeur lui donne une espèce de noblesse comme ça. Donc voilà, là, plutôt l'animal dans toute sa splendeur. Et puis Henri Rapin, ça va être plutôt deux personnages qui sont en train de, comment dirais-je, de construire ou de rénover un petit peu une maison, une construction. Donc ça va très bien avec le thème du coup. De la reconstruction et de l'art déco. Là, on est plus dans une espèce de mise en abîme où les deux personnages sont, on les voit, ils travaillent peut-être à la couleur d'une maquette, c'est une sorte de maison en maquette. Donc ça pourrait être intéressant d'avoir une maison sur une maison.
C'est vrai.
un côté un peu comme ça, mise en abîme. Donc voyez, les trois vraiment m'intéressent à faire. Et alors c'est vrai que les gens verront pas le projet définitif. Parce que ça, c'est un peu en cours, on va dire. Mais voilà, là, je pense quand même, j'ai donné pas mal d'indications.
Oui, c'est déjà pas mal. Alors, ce qui est assez quand même insolite, c'est que finalement, vous allez découvrir, entre guillemets, au dernier moment, quelle est l'œuvre que vous allez devoir réaliser. Comment on se prépare quand c'est comme ça?
Alors, je dirais qu'une fois que j'ai composé, que moi j'ai fait ma simulation, donc je vais procéder pour l'agrandir, je vais me servir d'un quadrillage, donc je quadrille mon. Donc ça va assez vite, puisqu'en fait c'est surtout beaucoup sur place que tout ça va se faire. Et après, au niveau des couleurs, comme je suis toujours un peu limitée en couleurs, je veux vraiment créer des couleurs de manière optiquement. Et donc du coup, en fait, je viens. C'est assez rapide. J'ai déjà de toute façon les couleurs sont toujours les mêmes. Donc, je n'ai pas à chercher des nouvelles couleurs. Elles sont assez basiques. C'est-à-dire qu'on est un peu proche des primaires, voilà, des jaunes, des bleus, des rouges, donc du blanc, du bleu foncé. Voilà, je me limite à une dizaine de couleurs à chaque fois, qui sont un peu des couleurs basiques. Donc ça là-dessus, je dirais que. Ça va vite après, en fait.
Oui, en fait,
Tout est
finalement,
déjà.
le plus gros du travail est peut-être déjà fait et puis sera le jour J, en fait.
Voilà.
L'entre-deux, là,
Exactement.
finalement, c'est juste long, faut juste patienter. J'imagine que vous avez hâte en plus, donc.
Oui, j'ai hâte, bien sûr, parce que comme ça, je vais pouvoir me projeter. Mais en fait, le projet est quasiment déjà fait. Donc après, voilà, faut juste acheter la peinture, se préparer et puis. Et puis le faire après sur place, en espérant qu'il ne pleuve pas trop.
C'est ça, c'est ce que j'allais dire, en espérant que le temps soit de votre côté. Alors, enfin forcément, j'ai posé la question donc à Marion Grange de la durée de réalisation pour ce genre d'œuvre qui est quand même immense. J'ai été assez surprise par la réponse. Elle a dit environ une semaine. Donc, est-ce que vous la rejoignez aussi là-dessus?
Oui, complètement. Je dirais peut-être même moins, parce qu'en fait, on prévoit toujours des jours où il risque justement de pleuvoir et où on serait arrêté sur les chantiers. Alors, c'est vrai que dans le milieu de l'art urbain, on est un peu des performeurs. On a vraiment tendance à travailler très, très vite. Et là, je dirais que pour une semaine, je suis normalement large.
D'accord.
Voilà.
Et
Et pourtant, c'est une technique qui demande du temps de faire des petits traits, tout ça, mais bon, oui, c'est assez rapide.
comment on se sent les jours du coup de réalisation lorsqu'il y a forcément du coup c'est du street art, donc on est dans la rue, il y a les gens qui continuent de vivre leur vie quotidienne. Comment ça
Oui.
se passe avec les gens? Est-ce que vous êtes assez souvent interpellés? Comment c'est?
Alors, le fait d'être sur une nacelle, souvent on est en hauteur, donc les gens passent et nous font des petits commentaires ou des petits pouces levés, etc., si ça leur plaît.
OK.
Souvent à la fin, d'ailleurs, quand ils commencent à voir un petit peu, parce qu'au début, des fois, ça ressemble pas à grand-chose, hein, on se demande même ce qui est en train d'être fait. Et après, quand ils voient, donc ce qui est intéressant, c'est que les gens qui vivent dans le quartier passent un peu tous les jours et voient l'évolution. Ça, c'est, je pense que d'un point de vue spectateur, ça peut être très intéressant. Et ensuite, de temps en temps, quand on descend, mais c'est très balisé, on peut pas vraiment rentrer sur un chantier comme ça. On peut pas. Vous voyez, l'accès est quand même un peu. On est un peu préservé quand
Un peu
même
protégé, oui.
par des barrières, des nacelles, etc. Ce qui permet d'être vraiment quand même dans le travail. Donc voilà, on n'est pas non plus trop interpellé, sauf si de temps en temps il y a des visites qui sont organisées où là tout est très cadré et on prend une petite pause d'une demi-heure pour discuter avec les gens, etc. Mais sinon, voilà, c'est plutôt voilà, les discussions, etc., c'est plutôt à la fin quand on a des inaugurations, des choses comme ça. Mais sinon, voilà, c'est très boulot, boulot, boulot quand
Il faut.
même.
Du coup,
Il
ça va
faut.
se passer rue de l'université. Est-ce que c'est une rue que vous avez choisie? On vous a proposé plusieurs supports. Comment ça s'est passé de ce côté-là?
Non, en général, les murs, bon là, en général, les murs sont prévus en amont. Il y a toujours un petit peu un travail, une direction artistique qui choisit pour nous, parce qu'il y a la possibilité aussi, on n'est pas vraiment au courant comment dirais-je, des projets en amont. Et souvent, quand on nous appelle, c'est pour nous dire, bah voilà, on a tel mur, il est là, on a pensé à vous, parce que voilà. Vous irez bien là-dessus. Et voilà, c'est un peu comme ça que ça se passe en général. Voilà, c'est rare qu'on choisisse vraiment les murs. C'est souvent imposé.
Est-ce que vous avez d'autres projets peut-être avec la ville de Reims à l'avenir ou déjà on s'arrête à celui-ci puis on verra par la suite?
Alors, bah pour Reims, on va avoir pas mal de choses puisqu'il va y avoir comment je dirais, une fresque participative normalement qui est prévue dans le quartier de la Verrerie. Donc ça sera plus tard. Un petit projet également dans une école pour faire un petit peu de pédagogie. Et puis, très franchement, quand ça se passe bien avec une équipe, en général, on aime bien se revoir. Et puis bon, bah, moi vraiment, travailler avec les musées, c'est vraiment ce que j'aime faire. Donc, s'il y a d'autres projets possibles, moi, je serais ravie, quoi. Parce que vraiment, travailler avec les musées, c'est quelque chose de formidable. Faire ce lien entre l'art ancien et le street art, il y a vraiment beaucoup de choses à faire, que ce soit en termes d'ateliers, bon, évidemment de murs, mais ce pont, en fait, qui est possible grâce à l'art urbain, et je pense très intéressant aussi pour les musées.
Bah,
Donc,
puis c'est moderne en fait, c'est ça qui est intéressant. Et puis c'est ce qu'on disait aussi un petit peu plus tôt avec Marion Grange, c'est que c'est éphémère. Est-ce que vous avez une idée un peu de la durée moyenne d'une œuvre de street art dehors comme ça dans la rue, comme la fresque là de 50 mètres carrés par exemple, combien de temps elle va rester?
oui. Alors, donc il y a des formules qui sont très très courtes, hein. Vous savez, le mur de Reims, par exemple, c'est tous les 3 mois, un artiste nouveau vient,
Oui, parce
etc.
que c'est
Donc,
recouvert du coup. On
parce
repart
que
sur
c'est
des nouvelles
recouvert.
bases, oui.
Voilà. Sinon, en général, ça dépend un petit peu. Ça dépend du matériau, enfin de la peinture. On va dire que c'est 6 ans, 7 ans. Au-delà, une fresque de 20 ans, elle commence un petit peu à passer. Donc, je dirais que la moyenne, c'est 6 ans, 7 ans. Ça dépend de l'exposition, etc. Si c'est un peu protégé ou pas. Mais ça reste quand même éphémère. Voilà. Mais bon, 6 ans, c'est bien déjà.
Et pour
6 ans,
le
7
moment,
ans, c'est
est-ce
bien.
que vous savez s'il y a encore, parce que vous avez donc évoqué que vous avez déjà donc travaillé auprès de la ville de Reims, est-ce qu'il y a encore certaines de vos œuvres qui sont visibles ou ça a été comme avec
Sur
le
Reims?
mur, oui?
Alors, effectivement, bon, je n'ai plus le nom en tête, mais on a une petite fresque participative que l'on avait fait. J'ai plus le nom du quartier, je suis désolée. Elle a été installée sur une. Enfin, on la voit en fait de la rue,
D'accord.
mais je suis désolée, j'ai plus les
Je me
détails.
renseignerai, je.
Ouais. Et en fait, c'est un atelier. On avait repris un tableau du musée et on avait plus travaillé au point, petit point. Donc, vraiment comme les néo-impressionnistes, comme Seurat, etc. Et donc, c'est les gens du quartier qui l'avaient réalisé. Donc, celle-ci, elle est visible, mais c'est tout. C'est
Et
vraiment
elle a
la.
été réalisée quand?
Pareil, je pense que j'ai un. Peut-être il y a 2 ans
D'accord.
ou. Voilà.
Oui, le temps passe tellement
Oui.
vite en même temps.
Oui, tout à fait.
Donc, à défaut de pouvoir vous retrouver du côté de Reims, enfin du moins d'avoir le nom du quartier pour le moment, on peut quand même vous
Oui.
retrouver sur vos réseaux.
Bien sûr, oui. Donc, j'ai un site
Oui.
internet, donc nadejeauvergne.art, sur lequel on peut voir mes dessins, mes fresques. On peut même choisir par thème si on veut. Ensuite, ben, Instagram, Facebook, et voilà, j'ai fait le tour de mes réseaux.
Eh ben, c'est parfait. Ben, je pense aussi avoir fait le tour de mes questions. Du coup, ben, je tiens à vous remercier et puis ben, à vous dire au mois d'avril alors.
Ben oui, tout à fait. On se revoit à ce moment-là.
Eh ben, merci
J'ai
beaucoup.
hâte.
À très vite.
À très vite.
Radio Primitive.
Merci encore à Marion Grange, responsable du développement culturel de la ville de Reims, et Nadège d'Auvergne, dessinatrice et street artiste, d'avoir pris du temps pour répondre à nos questions. On vous rappelle que vous pouvez toujours voter, hein, c'est jusqu'au 20 février, pour votre œuvre préférée qui sera à découvrir en avril prochain sur un mur rue de l'Université à Reims. Il vous suffit pour ça de flasher un QR code qui se retrouve notamment place du Forum. Un vote totalement gratuit, évidemment. Et je vous souhaite une excellente journée sur Radio Primitive. À très vite.